Edouard Kenway, le corsaire de l'information.
Un tweet de Maud Brégéon, députée républicaine En Marche, qui poste elle-même son passage sur RTL. Parce que là, oui, elle a besoin de poster elle-même son passage à la radio, puisque personne ne va la retweeter, donc elle préfère le faire elle-même. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous dit dans son passage? Qu'elle ne peut pas laisser dire que 100 euros, c'est rien. Elle fait référence à ce que le président Macron a dit dans son dernier passage télévisuel, à savoir qu'il allait verser 100 euros aux ménages les plus défavorisés, selon lui, pour compenser la hausse du prix du carburant. Donc, c'est 100 euros pour un an d'augmentation. Et elle dit donc que c'est pas rien et que quand l'État paye, c'est pas gratuit. C'est l'argent du contribuable. Donc, merci de nous rappeler qu'on se paye nous-mêmes. C'est la moindre des choses. Ensuite, je vais vous soumettre un rapide calcul pour lui prouver que 100 euros, c'est pas grand-chose. J'ai fait le calcul pour une personne qui travaillait à 30 km de son domicile et qui utilisait son véhicule pour aller au travail. Donc, je prends une moyenne pour un véhicule essence qui consomme 7,5 litres au 100. Donc, ce n'est pas folichon. Hein. Je ne prends pas les gros 4x4 ou les choses comme ça. Une berline moyenne. Et donc, pour faire le trajet, le véhicule aura besoin dans l'année de 1170 litres. Donc, je vous épargne le calcul et je vous demande de me faire confiance. Donc, à 1,60 € le litre, pour l'année, le coût du carburant s'élève à 1872 euros. Pour un carburant à 1,94 € comme c'est le cas le 26 septembre 2003, le coût annuel s'élève à 2269 euros, soit à quelques euros près, 400 euros d'augmentation. Alors, l'État nous prend 400 euros et nous restitue 100 euros. Au passage, il récupère 300 euros net. Donc, Madame la députée vient de nous expliquer que 400 euros, c'est rien, mais 100 euros, c'est beaucoup. Voilà, c'est le fameux en même temps macronien, peut-être. Le plus drôle dans tout ça, c'est qu'il y a des personnes qui vont voter pour eux aux prochaines élections. Poste de Valeur Actuelle au sujet de Giorgia Meloni, qui s'en prend à Olaf Scholz et accuse l'Allemagne de financer des ONG d'accueil de clandestins en Italie. Alors, lorsqu'on clique sur le lien, on tombe sur un article de Valeur Actuelle qui indique que Giorgia Meloni a écrit une lettre à Olaf Scholz pour se plaindre des organisations non gouvernementales en Allemagne et des fonds que reçoivent ces ONG pour leur rôle dans l'accueil des clandestins en Italie. On peut lire dans sa lettre qu'elle invite l'Allemagne à s'occuper de migrants sur son sol. Si on ne savait pas que Giorgia Meloni était présidente du Conseil italien, on aurait pu croire que c'était une simple lettre d'une citoyenne italienne qui prenait l'Allemagne comme bouc émissaire dans les malheurs qui affligeaient son pays sur le moment. Je ne comprends pas ce qui empêche Giorgia Meloni de prendre des mesures, que ce soit contre les migrants, ou que ce soit contre les ONG, ou que ce soit contre les États qui financent ces ONG. À partir du moment quand on est chef d'un pays souverain, qu'on est en charge de protéger ses frontières, il faut prendre des mesures et pas avoir peur de qui que ce soit. On voit bien la soumission de l'Italie à l'Europe et à travers l'Europe, en réalité, c'est à l'Allemagne, à la France, qu'elle doit se soumettre. Un tweet de Jean-Marc Morandini qui parle de l'ONU s'opposant à l'interdiction du hijab par les athlètes françaises au nom de la laïcité. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme estime que personne ne devrait imposer à une femme ce qu'elle doit porter ou non. Moi, j'ai juste une question, c'est de savoir est-ce que l'ONU a vocation à gouverner les autres États, qu'ils soient membres ou non membres. Un pays souverain est en droit d'imposer les règles qu'il veut sur son territoire. Si, par exemple, en Arabie Saoudite, le voile est obligatoire sur les terrains de foot, si une joueuse va jouer dans ce pays, qu'elle mette un voile, sinon elle ne va pas jouer. C'est aussi simple que ça. Si la France décide d'interdire sur son territoire une tenue vestimentaire, ni l'ONU, ni le pape, ni qui que ce soit a le droit de contredire une décision souveraine. Il faudra qu'on se mette d'accord sur le terme de démocratie. Je croyais que c'était le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. En fait, non, les gens votent pour des gens qui ne servent à rien et dont les élites et les chefs de gouvernement se soumettent à des institutions qui nous échappent, qu'on n'a ni élu, ni ratifié, ni rien. Donc, à un moment donné, il faudra redonner le pouvoir au peuple et le laisser gouverner comme il l'entend, même si ça ne plaît pas à certains pays ou à certaines institutions supranationales. Un tweet de Valeurs Actuelles qui indique que les députés LR pourraient soutenir la régularisation des clandestins pour les métiers en tension. Une question simple que je me pose, c'est avec tous les immigrés qu'il y a en France et tout le nombre de clandestins qui rentrent chaque année dans ce pays, par définition, on ne peut pas les compter, mais il n'y a qu'à ouvrir les yeux pour voir le résultat. On se demande pourquoi il y a encore des métiers en tension si ces clandestins étaient venus pour soi-disant faire le travail que les Français ne veulent pas faire. Donc en réalité, c'est sans fin, on va régulariser des clandestins comme ça a déjà été le cas. Une fois qu'ils seront régularisés, ils vont vouloir accéder à des droits, à être payés comme des Français, comme des gens régularisés, ce qui est tout à fait normal d'un côté. Et que vont faire ces employeurs véreux? Vont se retourner, encore une fois, vers des clandestins qui, eux, vont accepter d'être sous-payés de fait de leur précarité. Et donc, c'est un cercle vicieux qui entretient la filière clandestine de l'immigration. A vitam aeternam. C'était mon billet du jour. Je vous remercie de m'avoir écouté. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Ne croyez pas à tout ce qu'on vous dit. C'était Edouard Kenway, le corsaire de l'information. Bye.